Cette semaine, dans le balado, on obtient une seconde chance et on retrouve quelqu'un qu'on croyait disparu à jamais. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff!
Salut, salut. Mais en fait, tout le monde obtient une seconde chance d'une certaine façon dans les films de la semaine.
Ouais, on peut ainsi dire.
Si on pousse, là.
Si on pousse la loque.
Une seconde chance à l'amour, une seconde chance à la confiance.
Ouais,
c'est vrai. Une seconde chance aux exploits.
Bien dit, avant de parler de ces nouveautés. Petit tour d'horizon d'actualité, alors que je me lance.
Vas-y.
Commentes.
Ben là, je viens d'en apprendre une, mais...
À moins que tu veux lancer la grande nouvelle là, qui a enflammé les réseaux sociaux.
Je sais pas si...
Hier ou avant-hier?
Ah, OK, oui. Hey, finalement, j'étais au courant de plus d'affaires que je pensais.
Surtout qu'on avait parlé en plus semaine dernière.
On parlait des potins, pensant que à propos du prochain James Bond, pensant qu'on n'aurait jamais de réponse ou genre en octobre, mais ça n'a pas pris quoi 3 jours, puis ils ont annoncé. C'est Denis Villeneuve qui réalisera le prochain James Bond. Est-ce que tu sais un peu plus, par contre, le timetable, quand est-ce que ça serait? J'imagine qu'il fait Dune avant.
Ah oui, ça c'est certain.
Il doit commencer à entrer dans le projet. Qu'est-ce qu'on fait avec qui? Tu es rentré dans le processus.
C'est ça que j'ai hâte de voir parce qu'il n'a pas été confirmé comme scénariste. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression qu'il va avoir son mot un peu à dire sur la direction que l'histoire va prendre, là, logiquement. Peut-être même au niveau du casting. Je ne sais pas si on lui a présenté quelques choix potentiels pour le convaincre.
Timothée.
Fait que moi, c'est ça, j'ai hâte de voir. Fait que je ne sais pas à quel point le jeu de séduction est venu, soit d'Amazon ou de Villeneuve, là, à quel point l'un voulait plus que l'autre.
Ouais.
Ça serait intéressant à savoir éventuellement. Mais non, fait que j'ai l'impression qu'ils vont s'activer tranquillement à écrire le scénario au courant de l'année. Moi, j'ai l'impression que ça va être un tournage en 2026, là, probablement. Là,
OK.
Quelque part là-dedans.
Dans un an à peu près.
Ouais.
Et une sortie en 27.
Ouais, j'ai l'impression que ça
sort souvent à l'automne, les James Bond. Ça peut
varier, il y a eu différentes périodes. Des fois, c'était l'été. Des fois, c'était le Thanksgiving américain.
Ouais, c'est ça. Fait que... C'est pas ceux qui ont le plus marché. Là,
ouais. Donc, à voir. Mais moi, je soumets encore l'idée. Je lance ça dans les airs. Charlotte Cardin pour la chanson de thème. Je pense que ça serait très winner. En tout cas, ça serait, ça serait intéressant. Puis écoute, si on veut un James Bond québécois, moi, je le ferais à Eric Bruno.
Tu penses? Il est pas trop... Non, il est pas trop vieux.
Non, il a joué en anglais quand même un peu. Ben, ça dépend où on veut le prendre.
Il a joué en anglais?
Il a déjà joué au Canada anglais.
Ah, OK.
Dans des séries ou une série. Là.
J'avais pas.
Oui, c'est ça.
Eric Bruno.
Fait que, il se débrouille bien dans la langue de Shakespeare.
Écoute, peut-être qu'au mieux, il passera en audition, mais je pense pas qu'il va aller là.
Ça serait étonnant.
Très. Lilo et Stitch 2? Oui. Étonnamment, après tout ce succès financier, ben, on n'a pas perdu de temps. Petite bande-annonce où le petit Stitch conduit une petite voiture pour enfants. Mm-hmm. Et on annonce que la suite est en développement, fait que ça va être encore en prise de vue réelle dans ce cas-ci.
Mais ce qui est le fun, c'est qu'ils ont dévoilé ça hier.
Mm-hmm. Qui était le 26 juin.
26 juin, donc le 6-26. Et c'est le nom de Stitch. C'est son nom d'expérience.
OK.
Fait que ça, c'est quand même... J'aime ces genres de petits clins d'œil.
C'est quoi? Expérimentation 626?
Ouais, c'est ça.
Ah, ben voilà.
De mon côté, Spider-Man prend de plus en plus forme, le nouveau film. Le tournage va débuter cet été. On a confirmé qu'il va y avoir au moins un autre personnage connu de l'univers Marvel, et c'est le Punisher. John Bernthal va faire une apparition. On ne sait pas si ça va être un rôle élargi ou juste comme un petit caméo, comme Daredevil l'avait été dans Spider-Man.
Ouais, c'est vrai.
C'était
le troisième.
J'oublie toujours les noms. Et ce qui est intéressant, c'est que les espèces de call sheets qu'on appelle, donc les feuilles de production, là, officielles, en tout cas, bref. Mentionne que Mark Ruffalo va être présent dans le film, mais Disney n'a rien annoncé encore.
En Hulk ou en...
En Banner. Ouais. Moi, je pense qu'il pourrait justement servir de mentor, vu que Tony Stark, il était dans la première trilogie. Donc, à ce moment-là, est-ce que Bruce Banner va venir le remplacer? Ça serait très logique, en fait.
Je me souviens même plus, en fait, si dans la chronologie du MCU, s'il revient en Bruce Banner ou s'il est comme coincé en Hulk. On le voyait beaucoup en Hulk avec ses petites lunettes.
Dans les derniers Avengers.
Ouais, c'est ça.
Je me rappelle. Non, mais à la fin de Shang-Chi, on l'avait vu dans le... dans une scène post-générique où il est en banner. Fait que,
ouais. C'est ça. Je me souviens plus, parce qu'il me semble qu'à Mané, il disait que plus il se transforme, Mané, il y avait un risque qu'il puisse plus qu'il reste coincé dans une forme ou l'autre. Là, je sais plus.
Fait que j'ai hâte de voir, surtout avec Punisher quand même, qui on sait que Bernenthal souhaitait qu'à l'époque, quand ils ont reparti les nouvelles séries là, qu'on retrouve sur la plateforme de Daredevil, voulait garder ce côté-là très intense et violent, en plus de la vision de Netflix. Donc, ça va être drôle de voir comment on va jumeler le personnage de Punisher dans l'univers beaucoup plus familial de Spider-Man.
C'est pas un univers qu'on s'attend à voir du sang.
À suivre. Donc, puis sinon, ça fait quelques fois qu'on en parle de ce fameux reboot de Highlander avec Henry Cavill. Ben là, on a confirmé qu'il jouera son mentor, qui dans l'original était joué par Sean Connery, de ce personnage de Connor McLeod. Ben, ça va être Russell Crowe qui va reprendre. Mais on ne sait pas si c'est les mêmes personnages qui reprennent, fait que ça, c'est pas encore clair. Est-ce que c'est juste comme une sorte de réinterprétation ou vraiment un reboot avec les mêmes personnages? Bref, à suivre.
Est-ce que tu te souviens qui réalise, tu as annoncé?
C'est, oui, c'est Chad Stahelski,
John Wick,
quand
là.
Même.
Okay,
ouais, okay. Fait que, je pense que ça peut être intéressant. Il faut dire que le premier n'est pas un grand film, mais il y avait quand même un esthétisme assez léché pour un film de série B, avec la musique de Queen, entre autres, aussi. Quand tu auras l'occasion, tu regarderas ça, Lander.
Puis je sais que, en fait, pour les mauvaises raisons, le 2 est encore plus iconique parce que c'est un des pires films du monde.
Ouais, c'était comme un gros navet qui était fascinant à regarder. Mais l'original tient encore son bout. Puis c'est surtout la mythologie quand même entourant l'univers des Highlander où c'est des espèces des créatures, en fait, des gens d'extraterrestres, finalement, là, qui sont immortels. La seule façon de les tuer, c'est de trancher leur tête. Puis dans le fond, c'est comme une recherche à travers les époques pour être l'être suprême avec tous les Highlanders. Ben, pas les Highlanders, mais ces genres de personnages-là tentent de s'assassiner un l'autre. Là,
pour
qu'il en reste juste un,
hein.
Parce que lui va avoir comme tous les pouvoirs. Parce que dans le fond, t'absorbes les pouvoirs de celui que tu tues.
Okay.
Fait que c'est quand même intéressant. Là. Fait que j'ai hâte de voir ce que Chad Stahelski, effectivement, va pouvoir apporter à cet univers-là. Dernière nouvelle, sinon, on avait parlé aussi il n'y a pas trop longtemps de Lalo Schifrin, qu'on a fait notre spéciale Mission Impossible, qui était le compositeur du fameux thème. Okay.
Oui.
Ben, il est décédé, finalement, à 93 ans, d'une pneumonie. Fait quand même, c'est un gros morceau qui a marqué la culture populaire. Je ne crois plus, j'ai pas remarqué son dernier crédit officiel, mais juste souligner quand même qu'il y a eu 6 nominations aux Oscars à travers sa carrière, connu entre autres, plus pour la télévision, mais quand même au cinéma, avec les bandes sonores de Dirty Harry, en fait, de plusieurs des films de Dirty Harry, de Bullet, Steve McQueen, et Enter the Dragon, de Bruce Lee, quand même. Fait que lui, c'était, je dirais, la grosse période, c'était beaucoup les années 70, où son style musical mélangeait un peu du jazz avec du rock. Il y a comme un côté quand même plus guitare électrique un peu là, qui détonnait avec la musique plus traditionnelle hollywoodienne.
C'est peut-être une inspiration de Hans Zimmer aussi.
Pas impossible.
On en parlera bientôt de Hans Zimmer et lui aussi est plus d'une corde à son arc dans ses...
Est-ce qu'il va rejoindre Villeneuve sur le James Bond? Ça va être à voir aussi.
Peut-être. C'est peut-être sur sa bucket list. L'as-tu fait? Non.
Je ne crois pas.
Non, c'est pas lui qui faisait quand c'était Sam Mendes. Non, je pense pas. Je suis bonne mémoire.
Bonne annonce. Une qui me donne vraiment goût de le voir. Ça sera son film peut-être le plus accessible? Le nouveau Yorgos Lanthimos, Bougonia.
Ouais, avec Jesse Plemons, Emma Stone. Ouais. On retrouve des visages connus.
Mm-hmm.
Ça a l'air intrigante histoire. Plemons avec un autre a l'air de manigancer pour kidnapper Emma Stone, qui joue une espèce de... Ben, pas magnat, mais quelqu'un qui est à la tête d'une grosse compagnie, là, qui est connu publiquement et tout, là, qui est présent sur les réseaux sociaux et tout. Puis on comprend pas trop pourquoi il veut la kidnapper et tout, ce qui semble réussir. Puis un peu à la fin de cette espèce de teaser là, d'à peu près une minute et demie, il révèle comme à son ami « Ouais, je le sais que c'est une extraterrestre, là, les signes sont apparents, sont clairs. » Puis comme « OK, on est dans genre... » la conspiration et la folie un peu, voire je sais pas si on va dans la schizophrénie et tout, mais ce côté de lubie-là et de folie de « je vais te purifier », etc. Fait que bien curieux de voir si ça va être sûrement agréablement désagréable. Là. Des fois, ces films-là, ils ont ce sentiment de malaise ou de mal-être-là dans sa manière de mettre en scène qui est comme, je sais pas, à la fois froide et chaleureuse, là, parfois, là. Fait que, bien curieux. On annonce octobre. Il n'y a pas de date précise. J'imagine qu'ils font souvent des sorties, comme j'appelle, plateforme. Ben, j'appelle. Comme on appelle plateforme, je dis à l'occasion. Là, fait que à chaque semaine, on ouvre de plus en plus d'écrans. À suivre. Ouais. Bougonia.
Tant plus que c'est un remake d'un film coréen.
Ah, donc, c'était
Save the Green Planet, une comédie satirique coréenne.
J'ai peut-être essayé de regarder l'original avant.
Alors, à découvrir en octobre. Alors, ben, c'est pas mal la seule d'importance. Oui, fait qu'allons-y avec les films et débutons avec, je pense, celui qui a un gros buzz depuis quelques semaines, c'est le F1 de Joseph Kosinski.
Ouais, renommé F1 de movie, F1 le film, mais bon, F1, Formule 1, avec Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem. Dans les années 90, Sonny Hayes, donc le personnage de Brad Pitt, était un pilote de Formule 1 les plus prometteurs d'une jeune carrière, faisait les tabloïds et tout. Mais suite à un accident, ça a fait dérailler sa carrière, puis maintenant, il est dans plein de différentes courses. Là il faisait le Mans, quand le film débute, il fait le 24 heures le Mans, des choses comme ça. Et son ancien partenaire, coéquipier, qui lui a eu sa vie en Formule 1 et tout, est maintenant à la tête d'une compagnie, d'une écurie de Formule 1, Apex GT, GP, en tout cas, APX, machin. Et ils sont la risée là, de la Formule 1 après 2 ans. Je pense qu'on est dans leur 3e année, on est à la moitié de la saison. Ils ont toujours
un peu
eu...
comme Barre, finalement, de Jacques Villeneuve.
Ah ouais, c'était ça, je me souviens pas.
Ah ouais,
j'écoutais pas ça, la Formule 1. Ça va faire partie, d'ailleurs, de mon appréciation, le quand dire. Ouais, j'écoute aucunement la Formule 1. Ça m'intéresse vraiment pas, les courses de voiture. Puis... fait que là, on se retrouve, ben, c'est ça, 30 ans plus tard, là, c'est donc son Ruben Cervantes, qui est joué par Javier Bardem, vient le chercher en disant « Hey, mon écurie est en crise, je pense qu'on va être obligé de fermer, on va se faire mettre dehors. Je pense que son pilote vient de quitter, je pense. » Puis il dit « J'ai un jeune pilote très prometteur, donc joué par Idris, mais il a besoin d'encadrement et de sagesse, fait que je vais te chercher toi, même si t'es un wash-up qui a pas mis le pied en Formule 1 depuis 30 ans puis t'as une cinquantaine d'années. » Mais viens le mentorer, puis il faut que ça devienne du travail d'équipe, puis sauvons la carrière et l'écurie.
Mais le but, ils doivent au moins gagner une course pour pouvoir poursuivre leur aventure sur les
l'année
circuits.
Suivante, c'est ça. Sinon, ils disent qu'ils vont comme nous forcer à nous faire vendre, parce que là, c'est la risée pour la ligue de la Formule 1, finalement. Sauf que les deux sont un peu des poulains sauvages, et peut-être qu'on va réaliser que... Idris, le jeune, Damson Idris, son personnage, Joshua Pierce, est pas mal comme quand Sonny était jeune, un peu plus fougueux avec cette drive-là. Sauf que le jeune, lui, est plus dans les médias sociaux, l'apparence, l'image,
le
faut
clash
que je pense
à
mon prochain contrat et tout, son entourage qui est avec lui, tandis que t'as ton Sonny Hayes qui lui fait son jogging sur la piste de course, puis s'entraîne à l'ancienne avec des balles de tennis pour faire ses réflexes. Fait qu'il y a un petit côté...
Il vit dans une van, fait la van life.
À défaut d'avoir de l'argent, parce qu'on comprendra qu'il n'a pas été un bon gestionnaire de ses avoirs financiers et tout. Fait que c'est pas un personnage parfait non plus, t'sais. C'est définitivement le premier film de Formule 1 aussi intense, immersif, avec cette volonté-là. Tu l'as mentionné, c'est Joseph Kosinski. On est 4 ans après qu'il nous ait présenté Top Gun Maverick, qui avait aussi ressuscité la franchise, qu'on pensait impossible. Ressusciter la franchise. Ça a créé une franchise de ce fait en faisant une suite, mais bon, pensait impossible de faire une suite à Top Gun. Il est arrivé, des effets patents, on va au naturel, embarque dans la folie Tom Cruise. Fait que je pense que les studios, c'est coproduit par Warner, mais Apple et Plan B, la compagnie de Brad Pitt. Ouais. Je pense qu'on a eu pleinement confiance à Kosinski pour nous offrir un divertissement grand public, mais qui est très exaltant et excitant dans les scènes de voiture, en mettant des caméras dans le cockpit, des caméras sur les à vitesse de... point of view de Formule 1 de voiture, finalement.
Non, mais tu l'as dit, c'est également le scénariste Aaron Kruger qui avait travaillé aussi sur Top Gun Maverick. Donc, je pense que l'idée du producteur Jerry Bruckheimer, les deux films, le légendaire Jerry Bruckheimer, c'était de recréer cette expérience-là de Top Gun où on était dans des cockpits d'avion, là, d'être dans un cockpit de monoplace, de nous faire sentir vraiment c'est quoi être...
Un dépassement dans une courbe.
Ouais,
là,
à 200 km/h, là, ça fait peur. Ça y va. Fait que à ce niveau-là, c'est vraiment réussi. Là. C'est je pense que ça risque d'être le film le plus spectaculaire de l'été. Puis les gens, on sent qu'ils ont faim pour quelque chose de nouveau. On sent que les franchises commencent à avoir un peu atteint leur maximum, on dirait. Là. Fait que,
Ben, ça prend toujours un mélange des deux. Un peu de franchise, là, de Jurassic Park s'en vient et tout. Mais aussi un peu de produits originaux.
Ben oui,
là.
Puis je pense qu'il nous l'offre. Il nous l'offre très bien. C'est très classique dans la forme. Écoute, au niveau du scénario, on réinvente pas la roue.
Non, je pense pas qu'on prête à réinventer non plus. Ça. On va chercher qu'est-ce qui fait un bon pudding chômeur. Là.
Ben, effectivement, c'est un film popcorn parfait avec des archétypes de personnages. Fait que c'est facile de s'identifier. Un scénario très classique, facile à suivre. Pour ceux qui ne connaissent rien à la course, on a des descripteurs tout au long qui nous disent ce qui se passe. Fait qu'on comprend les enjeux, même visuellement, on les voit aussi. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on tombe pas trop dans les clichés, même si les personnages demeurent des archétypes. T'sais, on aurait pu ramener des rivalités, quelqu'un de son passé qui est encore en Formule 1, puis là, il veut se venger.
C'est celui qui a fait faire un accident.
Genre, c'est ça. Fait qu'on aurait pu tomber facilement là-dedans, mais c'est pas le cas. Puis, tu sais, aucune des écuries, il n'y a pas de rivalité malsaine, là. Il y a un respect des pilotes, mais c'est vraiment un film axé sur le dépassement de soi, c'est d'atteindre l'excellence.
Puis, évidemment, ça présente le prestige et la difficulté de la Formule 1 et de ce sport-là.
Puis moi, je pense qu'au-delà des courses, des scènes de course qui sont spectaculaires. C'est aussi tout l'envers du décor de la Formule 1, quand même, de voir toute l'équipe que ça prend.
La préparation physique aussi.
Oui, physique, mentale, tous les mécaniciens, tous les petits détails qui sont accordés. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est... Je trouve que c'est vraiment bien amené. Puis à 2h30, le film, écoute, un montage très dynamique, on s'ennuie pas 2 secondes. Puis dès la scène d'ouverture, qui est sur le Daytona, 24 heures de Daytona, on nous plonge dans l'action.
C'était Daytona.
Ça lâche pas, puis je pense que moi, ma révélation, pas une révélation, c'est une actrice que j'aime bien, Carrie Condon, mais je trouve que c'est le rayon de soleil du film. Je trouve qu'elle est très lumineuse par son sourire chaleureux, par son personnage. Je trouve qu'elle
elle joue l'ingénieur
en chef un peu,
ça,
là, de l'écurie.
Qui design les voitures et tout, là, pour l'aérodynamisme, etc.
Fait que n'hésitez pas, si vous voulez vivre une expérience en salle, un peu comme l'était Top Gun Maverick, je pense que F1 est vraiment le film d'été pour ça.
Ben, je voudrais ajouter deux éléments aussi. Ben oui. Je seconde ton positivisme sur le film. C'est Hans Zimmer qui fait la musique, ce que j'ai noté, mais c'est pas du Hans Zimmer Inception et tout. Ben, avec Dune, il nous a montré déjà qu'il était capable d'aller dans des éléments différents. Puis là, on dirait, c'est ça qui a comme... soit Kosinski puis lui se sont dit « Hey, c'était cool ce que Trent Reznor et Atticus Ross ont fait sur Challenger. » Peux-tu faire ça, Hans Zimmer? Fait que c'est beaucoup plus électronique, beat programmé et tout. Mais c'est tellement bon. Il est tellement bon, là. Zimmer, c'est incroyable. Puis j'ai remarqué ça encore plus parce que récemment, j'ai écouté d'autres films, soit des vieux films, des nouveaux. Je me souviens plus que je trouvais que les musiques étaient atroces ou collaient pas bien sur les films. Puis je ne sais pas si c'est des chansons, ben des pièces que j'écouterais comme ça, mais il comprend bien le film, ce que les scènes veulent développer, puis la musique est vraiment au service du film, tu sais. Puis comme sûrement John Williams et tous les autres grands étaient, c'est juste que c'est plus maintenant que je porte plus attention à ça, mettons. Fait que c'est pas des musiques où il a composé un grand thème qui va nous rester en tête, comme justement on a donné beaucoup à Williams avec le temps. Mais ça marche tellement bien dans le film, l'énergie et tout, fait que ça paraît que c'est un grand nom. Il y a, je voulais mentionner aussi, ben c'est ça, j'haïs ça, les courses de chars, mais pourtant j'ai adoré le film, je pense plus que toi même, mais j'étais un gros sucker des films de sport, ça c'est sûr que ça me gagne, l'arc narratif des personnages, la trompe, à un moment donné je vois ce côté, comme tu dis, du dépassement de soi et tout, je viens par le ressentir de genre, j'aimerais tellement ça pour lui qu'il réussisse, puis une affaire qui est bien, c'est ça, c'est que Le personnage de Brad Pitt, Sonny Hayes, tu sais, il est quand même un peu rugueux. Là. C'est pas une pierre précieuse parfaite, puis « Ah oui, c'est mon héros. » Et tout. C'est pas un héros, c'est un gars qui a des défauts, mais qui est attachant, fait que tu veux que ça passe bien pour lui, finalement. Tu sais. Puis est-ce que gagner une course ou finalement sauver va régler tous ses problèmes puis son amour propre et tout? Ben, pas nécessairement, tu sais. Fait que le film est assez réaliste là-dedans aussi, tu sais. C'est aussi coproduit par Lewis Hamilton, ouais. Puis on le voit un peu dans le film. On voit le film F1, on voit les vraies écuries. Ben, celle qu'on suit, je pense qu'elle est inventée, là. Je n'ai pas cherché.
Tout à fait.
Mais Ferrari est là, les autres, je sais pas c'est quoi.
Ah, de Mercedes, celle d'Hamilton. Voilà. D'ailleurs, c'est drôle toute l'histoire entourant ça parce que on s'est servi un peu d'Hamilton pour faire les ponts avec la FIA, l'association là, qui gère les Formule 1, okay, ouais. Le circuit, parce qu'ils ont eu vraiment la collaboration. Donc,
oui, ils tournaient sur les vrais circuits.
Effectivement, pendant les Grands Prix officiels et tout ça. Donc, on avait construit ce fameux paddock pour cette fausse écurie-là, à travers les vraies écuries.
Oui, ça devait mêler les gens un peu.
Ouais, quand même. Mais ouais, ça a pris quand même un an de tractation parce que les écuries... avait un peu peur du rôle d'Hamilton, puis qui
se mette plus grand.
Ou qui promouvoit plus l'écurie Mercedes au détriment des leurs.
Très peu, pourtant.
Non, effectivement, fait que ça, c'est bien respecté. Puis justement, je parlais de rivalité, qu'eux soient présentés un peu comme les méchants dans le film, mais c'est pas du tout le cas. Puis même si Hamilton, on le voit à peine, est quand même présent dans la séquence, dans la dernière course.
Oui,
il s'est gardé un beau rôle, mais on le voit pas quand même.
Non, c'est
mais
ça.
C'est correct, c'est bien amené.
Ben, amener ça en brun, si tu finis par batailler pour une première position, ben, tu vas batailler avec le deuxième
puis c'est quand même le visage de la Formule 1, fait que surtout pour les Américains, je pense que
mais comme faut avec lui. Oui, parce que comme c'est assez... ils l'ont bien fait, mais c'est assez facile à éviter, parce que comme c'est l'écurie pourrie qui est genre en bas... Ben, ils n'ont pas un compétiteur, ils sont tous des rivaux, tu sais. Puis c'est drôle, à un moment donné, il y a une séquence, il y a une entrevue, puis justement, ce qu'on voit, c'est comme une entrevue télé pour la chaîne de Formule 1 ou quoi que ce soit. Puis là, ils demandent à des gestionnaires d'écurie de dire hey, ouais, vous pensez quoi d'APX, tu sais. Puis il est comme, on pense pas à APX.
Non,
ils sont dans le classement sans sac.
comme les Sharks de San Jose en ce moment pour le hockey.
sauf quand ils draftent des high prospects. Ça s'en vient. ça, c'est mon amour des Sharks qui parle. Et il me semble que je voulais mettre un dernier truc. Ah oui, c'est ça. Ça me fait sourire parce que. Ben, un de mes films favoris, c'est Moneyball, et qui met aussi en vedette Brad Pitt dans le rôle de Billy Bean. Puis tout le concept de Moneyball, c'est qu'il dit, qui est une histoire qui est arrivée pour vrai avec les Athletics de Oakland, qu'on a qu'une équipe qui a moins d'argent, fait qu'il dit on ne peut pas jouer comme les autres à aller chercher des gros joueurs puis leur offrir des contrats si nous, on offre des plus petits contrats puis qu'ils finissent toujours par quitter. T'sais. Si on joue comme les Yankees, on va perdre contre les Yankees là-bas. Puis au début, il y a une affaire qui dit exactement comme ça. Puis les autres disent « Ah, faut prendre les mêmes stratégies que les autres, c'est ça la stratégie qu'il faudrait prendre. » Puis vu que leurs voitures sont un peu moins puissantes, il est comme « Si on fait les stratégies qu'eux, ils font, ils vont nous battre avec ces stratégies-là, faut penser différemment. » Puis j'ai comme « Hey, c'est le même gars qui dit la même phrase dans un film de sport 15 ans plus tard. »
C'était absolument voulu, je suis certain. Ben,
probablement, mais oui,
Cougar
c'est ça.
Qui avait un petit clin d'œil à Moneyball. Ah, moi, j'ai quelques fun facts. Le film a coûté, on dit 200 millions, parle jusqu'à 300 millions, mais en même temps, la production dit qu'on a récupéré beaucoup de sous à cause des commandites, parce que Dieu sait qu'il y a de la commandite au pouce carré sur l'écran.
Ben,
on n'a pas le choix de toute manière, parce que c'est la réalité.
Ben, tu parlais des Sharks, ça n'osait, mais c'est chose à part. Mais tu sais, comme eux-mêmes, la fausse écurie APX... ils ont leurs vêtements, fait qu'ils ont des commanditaires, fait qu'il y a Shark qui est une compagnie d'aspirateurs, je me souviens bien, puis Ninja, les robots culinaires, puis tout, mais c'est là tout le temps, chaque fois que tu le filmes, tu vois ça sur son casque, fait pas besoin de commander de la vraie Formule 1, commanditer notre film qui va être vu par je sais pas combien de...
Je pense
millions de personnes, mais centaines de milliers de personnes.
Je pense qu'il y a beaucoup de commanditaires de Formule 1 qui sont aussi qui ont dû payer de l'argent parce que...
J'ai calculé vite, mais il va être vu par des millions de personnes.
Ah oui, certainement.
Oui, c'est ça. Fois 10 piastres, à peu près.
Brad Pitt aurait reçu à peu près 30 millions pour sa participation au film.
Plus sûrement une cote de producteur, là, si ça se passe bien. Là,
effectivement. Ouais. Donc, Brad Pitt et Damson Idris, oui, allez-y.
Tu sais, c'est beaucoup, mais c'est quand même raisonnable sur un film qui coûte 250, 300 millions, 30 millions, tu sais. justement, ouais. de dire si on met autant d'argent dans le film, puis on... Si c'était pas lui, ça dépend c'est qui le comédien. C'est sûr qu'un Henry Cavill, ben, il y a un drôle de physique pour faire la Formule 1, là, mais t'sais, un autre gros nom aurait pu marcher, mais ça, le film serait pas aussi intéressant si c'était un acteur B, un peu. Ouais, là, mettons, on veut son charisme, on veut le voir, puis je pense que ça va aider beaucoup au succès du film. Brad Pitt est intemporellement populaire.
Puis avec Tom Cruise, c'est comme parmi les dernières grandes vedettes encore, là, mm-hmm. t'sais, qui leur charisme séduit encore, puis qui ont leur public. Puis en plus, c'est commis, il faut le dire, parce que Brad Pitt donc, a vraiment conduit des voitures. Ce n'est pas des Formule 1, c'est une Formule 2 modifiée par Mercedes, justement, okay. avec ceux qui ont aidé à la construction de la voiture. Donc lui et Damson Idris ont conduit, mais ils n'ont pas conduit pendant les courses. Donc tous les ouais. éléments de course ont été rajoutés par des effets visuels de post-production. Par contre, dans la vision qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont...
Qui était à circuit fermé?
En fait, je pense qu'une fois que la course était terminée, mm-hmm. je pense qu'ils gardaient les gens en place et tout ça. Puis là, ils tournaient justement juste les deux comédiens avec leur Formule 2. Puis après ça, ils ont intégré ça à des éléments de course.
Oui, puis tu sais, des fois, je veux dire, tu as des vues aériennes, là, c'est assez facile de mettre un pilote cascadeur.
Oui,
de...
Comme tu l'as dit aussi, on a inventé, Apple a inventé une caméra pour insérer dans le cockpit des voitures de course, donc tournant en partie par un iPhone encore là. Fait que c'est comme, on dirait qu'ils poussent.
Très Apple, hein?
Ben oui.
Oui, puis quand ils vont on le voit aussi, là, quand ils vont dans la salle où justement Kerry Condon est en train de développer l'aérodynamique, c'est tout des Mac, là, les derniers modèles.
Ouais.
Ben je comprends qu'en fait, n'importe quelle écurie a les derniers modèles.
Ça a été tourné dans les bureaux de Apple aussi.
En plus, cette affaire-là, bon.
Quand même.
Ben, tu sais, c'est eux qui produisent, c'est bien correct. Là,
mais une des raisons aussi pourquoi que le budget a gonflé, c'est que le tournage avait débuté à l'été 2023 avec le Grand Prix de Silverstone, mais a été arrêté à l'automne à cause de la fameuse grève des acteurs. Donc, ça a repris seulement en 2024. J'ai l'impression que c'est pour ça que Montréal n'est peut-être pas dans le film. Pour ceux qui se demandent, est-ce qu'on voit le Grand Prix de Montréal? Parce que dans le fond, Montréal est toujours en juin, fait que le tournage avait débuté après, puis dans le fond, ils ont repris, mais ils ont terminé avant celui de Montréal, ils avaient terminé au printemps 2024.
OK. Donc, mais là, l'autre aspect, c'est comme le film, lorsque, pas un spoiler, là, lorsque Sony arrive, la moitié de la saison est déjà faite.
Ouais.
Fait que là, je ne sais pas, c'est quand la saison de Formule 1, donc quand est-ce que ça finit? Fait que est-ce que Montréal se passe dans la première moitié, normalement?
Oui,
c'est toujours
tout à fait, oui.
Fait que c'est normal qu'on ne voit pas.
Je pense que la première moitié, c'est tout ce qui est avant l'Europe. Après ça, ça va en Europe pour l'autre partie, puis ça se termine, je pense que c'était à Abu Dhabi, là, au Moyen-Orient, qui est vraiment le dernier Grand Prix de la saison.
Puis, vite de même, la Formule 1, c'est-tu comme un peu le tennis puis le golf, genre, il y en a pratiquement toute l'année, ou c'est vraiment de 6 mois, puis après...
Non, c'est plus long que ça. Il me semble qu'il arrête genre 2-3 mois, là. Fait que c'est quand même assez long. Ouais.
Dernier fun fact, en français, version française, c'est Paul Oud.
Pierre
Oud, oui, c'est ça. Je me suis dit, c'est lequel, donc?
Paul, ça aurait été difficile.
Oui, c'est ça. Fait que c'est Pierre Oud qui fait la... Ben, comme on dit, comme la narration des courses.
La description.
Puis la description, puis il y a un partner, là, je ne sais pas si c'est son partner de RDS.
Ça, je ne sais pas, qui ont choisi.
Pierre est plus connu. Puis, c'est ça. Fait que, ça a l'air bizarre quand on dit la description, mais oui, c'est comme si tu l'écoutais à la télé, mettais dedans, puis fait que tu l'entends en voix off, et etc. C'est cool.
Et dernière chose.
J'étais allé écouter. On l'écoute en anglais, mais j'ai pogné un segment en français. On le reconnaît immédiatement. Mais c'est comme un peu drôle parce que, ben, lui, il parle comme on l'entend toujours parler, comme on l'entend faire la description, une espèce de. Ce qu'on pourrait dire une forme de français radio-canadien, léché pour la télé, faire la description. Mais après, t'entends comme les pilotes qui se parlent, puis l'équipe là, avec leur petit micro-casque, puis tout. Mais eux, ils parlent en espèce de... Tu sais, c'est doublé au Québec, mais ils parlent pas en québécois, genre « Vas-y, Sonny, t'as vraiment nouche, là! »
C'est pas
Snapchat, vraiment, allez, je dois le prendre. Ah oui, j'attaque à l'épingle! » Genre comme toutes les traductions, là. J'écoute
un genre de français qui existe pas.
Ouais, c'est ça. Mais Pierre, lui, comme on le connaît, que ça...
Il y a un petit clash.
Ouais, c'est ça, mais en même temps, c'est plus chaleureux. Puis je dis pas ça pour juger les films en français ou quoi que ce soit. Là, je trouve, si on doublait aucun film, on n'en verrait pas, là, ou très peu, là, genre pour la plupart. Là. C'est juste, ça me faisait sourire.
Et cette semaine, rapidement, Bruckheimer et Kaczynski rêvent déjà une suite
F2.
F1, partie 2. Et il voudrait intégrer, parce que Bruckheimer est quand même le producteur de Days of Thunder, le fameux film de course de Tom Cruise.
Tom Cruise dedans.
Effectivement. Donc, on ferait... on l'amènerait dans le décor. Donc, et ce serait possible que ces deux personnages-là aient un passé, là, parce que
c'est
dans les mêmes années.
C'est ça.
Fait que lui, il est probablement monté dans le NASCAR, dans ses courses d'avant dans les F1.
Ça commence à faire beaucoup d'Américains en F1, chose qu'il y a très peu, normalement. Que,
oui, ou est-ce que ça sera en F1, ou dans un autre circuit, ou quelque chose comme
peut-être.
Ça. On verra bien. Mais je trouvais ça très drôle, quand même, cette volonté-là. Ça sera à suivre.
Voilà. En parlant de à suivre, est-ce qu'on va sur une suite?
Ben oui. Megan...
Je ne sais pas si elle était attendue, mais elle arrive.
Oui, ben je pense que les ados vont apprécier. Megan 2.0 de Gerard Johnstone.
Oui, Gerard qui avait... Gerard, comme c'est un...
Jerry!
C'est un kiwi, lui. C'est un néo-zélandais. Qui avait réalisé le premier, mais pas écrit. Mais là, c'est lui qui est arrivé avec l'idée chez Blumhouse. On retrouve Alison Williams et de retour dans le rôle de cette tante qui est bonne en programmation d'intelligence artificielle et de robotique. Puis toute l'autre gang de filles. Violet McGrudge, Anna Davis, Amy Donald, là, qui joue les poupées, la jeune fille, etc. Donc, cette fameuse experte va ressusciter la fameuse poupée Megan parce qu'elle doit neutraliser une nouvelle androïde plus forte que l'armée voulait créer pour comme arme, mais qui s'est rebellée et qui est partie rogue à faire des... On ne sait pas exactement quoi, mais un destin
Elle présente une menace assurée.
Ouais, pour la Terre au complet. Et en plus, elle est en train d'éradiquer un peu toute trace de son existence en éliminant ceux qui sont derrière sa création. Fait que ça pourrait remonter jusqu'à le personnage d'Alison Williams. Tous les noms m'échappent.
Jenna, oui.
Ouais, je pense.
Jenna Forrester.
Oui, c'est vrai. Puis elle, vu après avoir subi tous ces événements du premier film, est rendue une espèce de militante, pas contre l'intelligence artificielle, mais pour vraiment contrôler, l'encadrer, puis dire il faut qu'on soit prêt à accueillir le futur et la technologie. Voilà. Fait que c'est une suite quand même plus ambitieuse. On change de ton. Le premier était un peu... camp un peu funné, mais flirté avec l'horreur.
Oui, on respectait les codes du slasher quand même
C'est ça. Mais pour ado, fait que c'était quand même doux dans ses kills et son approche. Là, on dirait qu'on a adouci ça puis qu'on a mis plus de Coco Bongo funny robot. Là.
Ouais. Fait plus que, science-fiction, je dirais.
Ouais, c'est ça.
Horreur,
Il y a énormément...
Parce qu'il n'y a pas de jump scare.
Il y a énormément de scènes d'exposition de charabia technologique et d'intelligence artificielle.
Beaucoup de plans.
Ouais, c'est ça. On est toujours en train de faire un plan, on l'exécute, ça se passe mal, on refait un plan, on l'exécute. Fait que c'est ça la drive du film. Les choses empirent à chaque étape. On se fait kidnapper, on libère, c'est l'autre. Es-tu avec moi? T'es-tu contre? On doute toujours de Megan. Est-ce qu'elle a un agenda secret ou vraiment elle va nous aider puis elle veut protéger Katie, la petite fille? Je sais plus. Voilà. Fait que c'est ça. Très chargé, très ambitieux. On va à plein d'endroits dans une convention technologique, dans des gros bureaux, pas de bon sens, avec des leaders mégalomanes, etc.
Film très drôle. Moi, j'ai l'impression que se sont inspirés beaucoup de Terminator 2 parce qu'on a justement Megan qui joue un peu à la Arnold, qui devient le nouveau T-800. Et on a un T-1000 qui est le super robot. Beaucoup de références à Steven Seagal aussi, à ses films Above the Law puis Hard to Kill, entre autres, parce que là, Katie a suivi des cours d'aïkido.
Je me demandais justement, Gérard, puis il était un peu plus vieux que je pensais, il a plus ton âge, il est en 76.
Ouais. Carrément mon âge. Donc voilà les références, justement.
Parce que même moi, je sais c'est qui Steven Seagal, mais je suis un petit peu trop jeune pour l'avoir apprécié. T'sais. Moi, je suis vraiment Arnold, Sylvester, des amis certains, Van Damme, moi, c'est m'a moins touché. Là, mais c'est ça, Seagal, c'est un petit peu... quelques années plus vieux.
Ouais, puis en même temps, ça a été de courte durée. T'sais. Il était comme très in 4-5 ans, puis après ça, il est tombé rapidement dans les directs vidéo.
Ouais, je pense qu'il n'est pas très apprécié non plus.
Non, je pense qu'il a de l'air d'être vraiment un connard. C'est ce que je comprends. Fait que bref, il faut saluer l'audace. C'est un film très différent. Je pense qu'il s'adresse vraiment aux ados. Là, on s'en cachera pas. Fait que je pense qu'eux vont sûrement y trouver leur compte. Est-ce que ça va devenir aussi viral que le premier? Parce que le premier est comme sorti un peu champ gauche de nulle part à cause de TikTok. Ça crée de l'engouement, puis c'est devenu un des gros succès quand même de l'année.
Puis ce qui est arrivé aussi, c'est comme plusieurs films, le premier est sorti genre le 6 janvier, tout de suite après le congé des Fêtes. Fait qu'il a été un phénomène dans cette période-là. Et là, c'est le classique de plus gros, plus fort, plus grand. Et on sort ça en plein milieu de l'été. Ouais. Saison du blockbuster, fait que c'est all-in, là, fait que on avait vu ça, Deadpool avait fait ça, premier gros succès surprise à Saint-Valentin, Deadpool 2, plein milieu de l'été, puis ça a fait, ça a pas fessé aussi fort qu'on pensait, le 3 vraiment beaucoup, parce que le temps a passé, là. Mais c'est une formule assez classique, de se transporter à l'été en pensant qu'on va défoncer des portes à coups de pied, mais...
Ben avec un budget de 20 millions, le risque est très minime.
Ben, c'est la recette Blue Mouse, ben, c'est ça. Je suis content de voir qu'Alison Williams est productrice du film, fait qu'elle prend les rênes de ce rôle-là. Évidemment, on ouvre la porte à un Megan 3, 4, 5, 6, 7, autant qu'il y aura un public qui en demande.
Ouais.
Voilà, fait que s'il en est un, c'est bien un film où on se met le cerveau à off, on n'essaie pas de défier les logiques du film, puis on apprécie la baston puis les répliques cheesy, là, mettons.
C'est comme un manège, on embarque puis on se laisse aller.
Puis on sort juste après.
Allons complètement ailleurs, donc pour peut-être les amateurs de cinéma international, il y a une belle offrande cette semaine, qui est mon gâteau préféré des co-réalisateurs Mariam Mokadam et de Behtash Sanira. Je m'excuse si je massacre leur nom.
Des Iraniens? Iraniennes?
Oui, iranien-iranienne.
On va suivre Mahin, qui a 70 ans et qui vit seule à Téhéran, donc est veuve depuis plusieurs années. Ses enfants ont quitté l'Iran. Elle les voit plus très, très souvent. Puis, on s'apprend rien qu'en Iran, il y a beaucoup d'interdits sur tout ce qui est tout ce qui est personnel, en fait. Fait que, bravant tous les interdits, elle va décider de réveiller sa vie amoureuse et provoquer une rencontre avec un chauffeur de taxi qu'elle va rencontrer, Faramarz, qu'elle va trouver très charmant, puis l'inviter chez elle, chose qu'on fait pas. Et ils vont se mettre à vraiment dialoguer puis parler de leur intimité, de leur vie personnelle, de leur solitude, de si c'était mieux avant, et etc. Et tout ça va nous mener jusqu'à, je dirais quand même, une chute assez surprenante dans ce film-là. C'est pas une comédie romantique, là. Drame social.
Un peu sentimental, là. C'est pas lourd, mais tu l'as bien dit quand même, avec une fin assez étonnante. moi, ce que j'ai aimé, c'est un film très contemplatif, qui fait peut-être penser à du Robert Guédigan ou même du Éric Rohmer pour les plus vieux, là. Fait que c'est un film de dialogue, on parle beaucoup.
Pour une bonne partie, c'est un huis clos. Là, ouais, après toute la dernière heure, ils sont dans sa maison. Puis...
Mais ce que j'ai trouvé fascinant, c'est vraiment la vie au quotidien à Téhéran, d'une bonne femme aussi, quand même quelqu'un d'assez âgé. Fait que c'est intéressant de voir tout ça, justement à quel point elles sont contrôlées, plus que les hommes, on s'entend.
La scène au parc où elle rencontre une jeune fille qui
se fait arrêter par la police des mœurs.
Ouais, parce qu'elle elle ne couvre pas ses cheveux. Tu vois, qui est un peu lousse, son affaire de genre, j'ai 70 ans, tu me sacrapais, là. Je le mets, là, mais un peu slack. Comme une chemise hors des culottes, mettons. Là.
Fait que c'est toujours intéressant d'avoir accès à ces cultures, à ces pays plus fermés quand même. Donc, si vous aimez ce genre de cinéma-là, mon gâteau préféré est intéressant
très,
à voir.
Très bon film. Puis, aussi, justement, les réalisateurs, les cinéastes...
Ouais, ont payé pour un peu.
Oui, parce que c'est ça. Tout ça parce qu'ils ont filmé une femme non voilée, parce que quand elle est chez elle, elle est non voilée. Fait que ça, c'est comme de la nudité. Là,
c'est tabou. Ouais.
Pas jugé de toutes les mœurs non plus, là, mais... c'est ça. Fait que là, on m'a dit, j'ai su qu'ils étaient en sécurité et tout, mais...
On a révoqué leur passeport, donc ils n'ont pas pu voyager en France ou à la Berlinale, je pense. C'est l'autre précédent qui était à Berlin, je ne me rappelle plus. Bref, je sais qu'ils n'ont pas pu voyager pour la sortie du film. Puis d'ailleurs, pour leur film précédent, je vais essayer de trouver le pardon où elles avaient été accusées, là, vraiment... de 14 mois de prison, mais avec sursis. Là, fait qu'ils n'ont pas été emprisonnés, mais vraiment, c'est difficile pour les cinéastes parce qu'il y a aussi l'autre là, qui avait fait le film...
Migraine du Fidèle. Oui,
c'est
sauvage.
Ça, qui lui aussi. Lui avait fait de la prison vraiment quelques mois, puis tout ça. Là, fait que c'est pas évident.
Non, exact. Puis le film aussi aborde un peu cette thématique-là qui est en fait pourquoi rester.
Mm-hmm.
Parce que t'as quand même si ça va pas bien, puis que t'as plus de droit.
C'est tes racines.
C'est ça, c'est de là que tu viens, tu sais pas où aller, c'est difficile d'arriver juste dans un pays, même ailleurs, une autre langue complètement, ben ça y est, je vis ici maintenant, c'est tough.
Puis si tu vas aux États-Unis, ben ils vont te renvoyer.
Et ouais, je pense pas que c'est d'une priorité. Le Canada a toujours été quand même plus une terre d'accueil que les États-Unis, quoique pour certains pays, ils semblent avoir encore le rêve de l'American Dream, puis de devenir un TikToker riche.
Plus facile quand t'as 1 million pour payer ta gold card.
Ben là, comme... parenthèse, là, on discute. As-tu vu le mariage de Bezos là, en Italie?
À Venise.
Ouais, c'est ça. Puis là, il y en a qui sont. Ça a coûté 50 millions. Ils louent des hôtels complets pour que ses invités. Puis c'est un mariage de 250 personnes. Là. C'est pas, on en fait aussi au Québec, des mariages de 200 personnes quand même. C'est une bonne facture aussi. Plus du 50 000 que du 50 millions. Mais c'est ça, fait qu'il a comme paralysé la ville. La plupart trouvent ça de la merde là, quand j'ai vu des topos aux nouvelles, mais certains sont comme « Ah, ben, ça rapporte de l'argent, puis tant mieux. » Mais ouais, c'est divisé, fait que... L'American Dream, voilà.
Ça, c'était notre commentaire.
Oui, c'est ça, puis après qu'ils se proclament des self-made men, là, puis t'es comme « Ouais, ben c'est toujours bien parce que la moitié de la Terre achète des cochonneries sur ton site que t'es riche de même, là, pas juste grâce à toi. » C'est tout
ouais.
Pour cette semaine. Il y a des gros films qui sortent dans les prochaines semaines, mais tu fais exil.
Faut prendre des vacances, faut se reposer un petit peu. Alors, on va revenir dans 2 semaines.
Ouais, trois.
On fait pause 2 semaines, on revient le 18.
18 juillet.
Ouais, c'est ça.
D'ici là, on fera un retour sur les films, mais les grosses sorties, il y a Le Monde Jurassique, la Renaissance, donc Jurassic World Rebirth, qui sort le mercredi 2 juillet. Malheureusement, on ne l'a pas vu encore, sinon on l'aurait abordé aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Il y a Menteuse qui sort le mercredi 9 juillet, donc la semaine suivante, que j'ai vu.
Ouais.
Je touche du bois, je devrais avoir une entrevue avec l'équipe, fait qu'à ce moment-là, je sortirai autour de la sortie du film avant qu'on se retrouve dans les épisodes réguliers. Et il y a le très attendu aussi Superman qui sort le 11 juillet de James Gunn et plein d'autres contre-programmations au travers de ça. Puis le 18 juillet, il y a beaucoup de sorties aussi. Ouais. Fait que ça se peut que ça nous fasse un épisode costaud à ce moment-là, à notre retour. Moi aussi, je vais avoir des vacances plus tard à l'été. Pas encore certain, mais en tout cas, on reviendra pour au moins une semaine ou deux. Et voilà, fait que d'ici là, quand même, écrivez-nous balado@monciné.ca. Moi, je vais répondre. Et suivez Magazine Monciné sur Facebook et Instagram. Et procurez-vous gratuitement le magazine Monciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez monciné.ca pour plus d'informations.
Ben oui, vous pourrez suivre mon entretien avec T-Rex pour Jurassic World.
Oui, c'est
ça. J'ai eu l'occasion d'aller jaser.
Ouais, t'as pas pu parler aux nouveaux super dinosaures qu'ils ont créés.
Non, lui...
trop farouche.
C'était juste média sélectif. Ouais, il est trop big. Là, fait que...
Certains disent que c'est le Steven Seagal des dinosaures. On n'aime pas travailler avec.
Mais sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et puis si votre Wi-Fi se met à vous faire des menaces, là, changez pour une autre compagnie.